Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom, troisième livre, Vitiyinkan, épisode 5. Au jour J, toutes les promesses avaient été tenues. New Santorin, Casteldeck et Venice, les trois villes virtuelles, avaient délivré leur certificat de citoyenneté à Loon. Une autre promesse, peut-être, qui n'avait pas été faite explicitement, mais qu'on avait dû préparer depuis le début. Il ne fut pas classé. Comme ça, pas de comparaison avec les autres. Visiblement, ce que Mérès voulait, Mérès l'obtenait. Et c'était ensuite à l'instructure de faire en sorte que ça ne fasse pas de vagues. Les choses pouvaient rentrer dans l'ordre, même si cela faisait déjà plusieurs semaines, d'une certaine manière, que l'enfer s'était un petit peu adouci. On avait vu qu'il ne lâcherait rien, qu'il ne craquerait pas, qu'il était fort, qu'il savait être dur. Alors, on avait arrêté de lui tourner le dos. C'était stupide, tourner le dos à quelqu'un qui allait intégrer l'équipe de Mérès. Allez savoir, on ne sait jamais ce que cache l'avenir. Se fâcher avec quelqu'un de l'équipe de Mérès, ça ne semblait pas très intelligent au sein de l'IAMAS. Loon ne parlera jamais de cette journée. Il ne parlera jamais de son sentiment de réussite, de sa reconnaissance auprès des trois villes virtuelles qui avaient tenu leurs promesses. Il ne parlera jamais de la peur qu'il avait eue d'échouer et de ce que les militaires auraient pu alors faire de lui. Surtout, il ne parlera pas de la distance qu'il eut avec cette cérémonie, au moment où on lui remit le fameux badge rouge. Pas de l'indifférence, mais, alors que pour les autres, c'était le Graal, la chose ne le toucha pas autant qu'elle aurait pu, ou autant qu'elle aurait dû. Difficile d'expliquer cela, sans paraître totalement insensible, ou un ingrat. C'est le lendemain matin que l'émotion le submergea, quand, à son entrée dans la pièce, Alexia l'accueillit en inscrivant avec un gros marqueur noir un M sur le fameux badge rouge, en lui glissant « L'astuce, c'est de l'enlever avant de donner l'uniforme au lavage. Sinon, il faut le réinscrire à chaque fois, et au bout d'un moment, la fibre devient un petit peu grise. Ça finit par se voir, ça bave, ce n'est pas très joli. » Sans rien en connaître encore, il avait à ce moment-là précis l'impression d'intégrer une famille. Peut-être ce qu'il cherchait, ce dont il rêvait depuis si longtemps. Les premières heures allaient rapidement lui confirmer qu'il ne s'était pas trompé. Déjà, impressionné, il rentre dans la pièce. « Bonjour, monsieur Mérès. »« Comment ça, monsieur? Tu te fous de ma gueule? Il y a 3 mois, tu t'étais montré un petit peu plus à la hauteur. »« Désolé, Yann. » Silence gêné et regard fuyant d'Alexia et de Seban, qui observaient la scène. « Pardon. Désolé, Mérès. »« Bien. » Comme gage, dans le bocal, tu passeras ta première journée avec Carmen. Plus tard, en y repensant, Loon se dit que cela devait être une astuce, qu'on n'avait pas trouvé mieux pour lui expliquer que démarrer avec Carmen, c'était bien, mais que ça signifiait d'être enfermé dans le bocal toute la journée. Alors faire passer ça pour un gage, pourquoi pas. De toute façon, après avoir été enfermé pratiquement dans un bocal, et tout seul, pendant 3 ans, il ne voyait guère la difficulté qu'il y avait. L'actualité semblait légère. Carmen prit pas mal de temps pour lui expliquer différentes choses, jusqu'à la question sur les backlones. J'ai repensé à cette histoire de backlones. Corrige-moi si quelque chose m'a échappé. À un moment, il y a eu une faille dans la gestion des Aidon faite par certaines villes virtuelles. Des pirates qui réussissent à mettre la main sur de vieilles copies de sauvegarde de ces Aidon, enfin, de ces personnages, quel que soit leur niveau, Afton, Actul ou Acton. S'ils réussissent à récupérer, par un système de piratage ou un autre, le mot de passe qui correspond, ils ont la possibilité de le faire vivre en double avec, on va dire, l'original dans la ville virtuelle. C'est exactement ça, tu as tout compris. Après, c'est de la statistique. Il faut qu'ils trouvent la ville virtuelle qui a eu ce bug, qu'ils trouvent sur le netpuge vendu par les pirates les profils correspondant à la période pendant laquelle la faille n'a pas été corrigée, et en même temps qu'ils essaient de retrouver des listes de mots de passe qui correspondent à ces profils. Si jamais ils arrivent à croiser tout ça, eh bien ils peuvent créer un backlone et l'envoyer effectivement dans la ville virtuelle pour faire des courses en parallèle de l'original. Quelle est ta question? La première chose que l'on nous a dit, quand nous avons commencé les cours, c'est que nous étions là pour protéger les habitants, que l'on ne s'occupait pas du tout des visiteurs. Or là, il y a bien eu une faute de la part de la ville. Le backlone est lié à une ville virtuelle en particulier, donc même si le principe est multiville, chaque ville peut être considérée comme responsable de cette faille qu'elle n'a pas corrigée à temps, Et celui qui va être grugé, en réalité, c'est d'abord l'original, avant d'être une boutique qui va vendre quelque chose. Carmen Oleros avait un sourire d'une oreille à l'autre. Continue. Eh bien, de ce fait, il me semble que ça ne devrait pas être à l'IAMAS de s'occuper de ça, mais à la ville. Trépignante de joie, Carmen poussa le bouton de son communicateur et hurla. Il est comme moi. Il pense la même chose au niveau du backlog. Désolé, mairesse. Maintenant, nous sommes à égalité pour considérer que c'est à nous ou pas de nous en occuper. Loon vit distinctement Mairesse lever les yeux au ciel, puis entendit
« Je veux ma prime. »
Ce à quoi Mairesse répondit « Un mauvais point. » Et de nouveau, Carmen d'exploser. « Ça y est, j'ai gagné. Tu me dois une bière. »
C'est scandaleux.
Seban se leva alors et alla mettre une petite boule noire dans une série d'éprouvettes que Loon n'avait pas repérées au début. Il y avait 5 éprouvettes, 5 couleurs différentes, et visiblement, la noire, celle de Seban, venait de dépasser d'une bille celle qui, parmi les 4 autres, était la plus remplie, par des billes vertes. Devant l'air interrogateur, Carmen lui expliqua. « Mairesse donne des mauvais points. Nous aussi en donne des mauvais points à Mairesse. C'est la première, avec les billes blanches. Comme tu peux voir, elle est vide, on n'ose pas trop. Lui, par contre, ça fuse. On était à égalité avec Seban. » J'avais parié une bière qui serait le premier à me dépasser. Elle poussa alors le bouton et dit « Au fait, il va falloir trouver une couleur pour Loon, et puis lui acheter une éprouvette et mettre la réserve de billes à côté. » Ce à quoi Loon ajouta « Et mettre la première bille pour il y a 3 mois. » Et 2 autres alors, pour m'avoir appelé Monsieur et Yann ce matin.
« Nous avons un sacré concurrent. Je propose d'attendre un peu pour la bière. »
Loon eut juste le temps d'entendre « Quel radin !» avant l'éclat de rire général. Voilà, une famille. Loon se retrouvait projeté presque 15 ans en arrière, quand il était chef d'équipe. Il grimpait, on l'appréciait, l'ambiance était conviviale. C'était un peu particulier. Les relations avec son chef de section laissaient les autres pantois. Quand ils avaient des soucis, ils s'enfermaient dans une salle, et le ton montait tellement qu'à chaque fois, tout le monde était persuadé que Loon était en train de se faire virer. Simplement non, c'était une méthode de travail. Chacun avait son point de vue, ils se battaient pied à pied pour le défendre, finissaient toujours par trouver un terrain d'entente et ressortaient tout sourire devant les regards interloqués des autres qui, en ayant entendu les hurlements, se demandaient si l'un n'était pas en train d'étrangler l'autre. Personne d'autre que Loon ne pouvait avoir cette impertinence vis-à-vis de son chef, et ce n'est guère qu'avec Loon qu'elle restait sans conséquence. Ils s'étaient trouvés, une sorte de vieux couple, comme disaient les autres à ce moment-là. Les nouveaux en restaient toujours impressionnés, comme ce jour où, dans une réunion, Loon avait tenu tête, et où son chef, en sortant, lui avait dit d'un air méchant « Tu ne refais jamais ça en présence de quelqu'un d'autre. » Ce qui n'avait eu pour seule conséquence que Loon, par pure forfanterie, avait décidé de s'appliquer lui-même un gage et avait passé toute la nuit à nettoyer toutes les voitures de l'équipe. L'histoire était restée, et les coéquipiers, assez régulièrement, au parking, allaient Loon en lui disant « Hé, Loon, amène-toi, il y a une tâche, là !» laissant tous les non-habitués effarés qu'on puisse interpeller son chef, pour ça, de cette manière-là, et par son prénom. C'était le bon temps. Ça serrait le cœur d'y penser, car après, il avait vu ses équipiers commencer à grimper, et avait compris que, là-haut, dans la hiérarchie, quelqu'un avait décidé que, même avec des compétences, même avec un bon état de service, une personne qui portait un conner et une combinaison anti-rayonnement, pouvait faire un très bon chef d'équipe, mais pas un bon chef de section. Voire pas un chef de section du tout. Non pas que Loon était devenu aigri, mais simplement, les équipes tournaient. D'habitude, on montait avec ses collègues, il y avait de l'historique, de la complicité. Là, non seulement, il se cognait régulièrement contre le plafond de verre, mais en plus, les gens passaient, et donc l'ambiance n'était plus la même, avec les petits jeunes qui arrivaient et qui ne le connaissaient pas. Là-dessus, s'étaient ajoutés ses problèmes familiaux. Bref, le cœur n'y était plus vraiment. Alors que là, de nouveau, Loon avait l'impression de pouvoir espérer se sentir en famille. Le lendemain matin, une 6e éprouvette avait fait son apparition à côté des 5 autres, ainsi qu'un bocal avec des petites billes bleues fluorescentes, dont il alla en extraire 3 pour les mettre dans l'éprouvette. Les éprouvettes pouvaient en contenir 10. À chaque fois que quelqu'un atteignait 10, on remettait tout à 0. Le noir était à 8, le vert à 7. Il avait encore de la marge. Il proposa néanmoins, pour fêter son arrivée, de payer une bière à tout le monde.
« Tu es un mec bien, tu iras loin. »«
T'es vraiment vénal. » Et de nouveau ces éclats de rire que l'on ne trouvait pas forcément dans les salles aux alentours. Le soir même, Non pas que la décision de Loon ne fût pas prise, mais en tout cas elle avait besoin d'être matérialisée. Ainsi, envoya-t-il un message à son avocat sur Enarsenis pour que celui-ci prévienne l'avocat de la partie adverse qu'il ne reviendrait plus et qu'il s'installait définitivement sur Pangeto. Évidemment, un autre critère fondamental entrait en ligne de compte. Loon avait toujours été quelqu'un de raisonnable, qui savait profiter des bons moments et ne pas ensuite regretter leur fin quand les choses étaient terminées. D'autres, dans son cas, auraient pu trouver pénible, à chaque fois qu'il fallait sortir du complexe d'Ialden, d'avoir à reprendre un conner et une combinaison anti-rayonnement. Alors que lui, au contraire, les 10 à 12 heures qu'il passait 5 à 6 jours par semaine sous le dôme, en étant dans une liberté totale, plus de conner, plus de combinaison, plus de peur, et avec le sport, finalement, moins de soucis liés à la gravité. Le rêve ultime, évidemment, aurait pu être de ne plus sortir du complexe, ou en tout cas, d'y passer la nuit, d'y vivre, d'y avoir un appartement. Même Mérès n'en avait pas. Les concepteurs de Ialden en avaient fait un endroit privilégié pour que les meilleurs puissent venir travailler ici sans entrave, mais ils tenaient absolument à ce que ces gens gardent le contact avec l'extérieur, avec la réalité. Même s'ils étaient privilégiés, ne serait-ce qu'à cause des espaces verts, tout le monde n'était pas forcément obligé de travailler avec un conner ou une combinaison. Cet environnement ne devait être que leur environnement de travail. En tout cas, Loon se voyait bien terminer sa carrière ici. Comme le lui avait expliqué Alexia, très fière d'avoir été celle grâce à qui il avait été repéré et intégré dans l'équipe, Loon avait la chance d'arriver à un moment relativement calme. Cela lui permit de faire tranquillement connaissance, un petit peu plus personnellement, avec chaque membre de l'équipe, et aussi de s'en faire apprécier. Pour Carmen Oleros, pas très difficile. Grâce à lui, il y avait maintenant 3 personnes, avec Seban, qui considéraient que les backloans n'étaient pas le problème de l'IAMAS. Le sujet avait été tranché bien au-dessus d'eux. On disait que certaines villes avaient augmenté un petit peu leur contribution à l'IAMAS pour que l'IAMAS s'occupe de ces sujets-là. D'où la demande de prime de Seban. Mais Mérès s'était aligné sur ce que les grands chefs avaient dit. Un faux sujet de débat, en réalité plus pour rire qu'autre chose. Et puis Carmen avait été impressionnée par la connaissance que Loon pouvait avoir du Netpuge. Elle se sentait un petit peu moins seule quand il s'agissait de parler de cet autre monde à ses collègues. Pas difficile non plus d'avoir un lien de complicité avec Alexia Dovodovitch. Il existait déjà avant même que Loon ne rejoigne l'équipe de Mérès grâce à leurs échanges à la salle de sport. Alexia, la deuxième pure informaticienne du groupe, qui faisait de la musculation car elle s'était entichée d'un athlète haltérophile et qu'elle voulait pouvoir, comme elle disait, faire le poids face à lui. L'autre informaticien, c'est Ben Stierlikatz, le muet avec son vocodeur, l'homme capable de taper des 0 et des 1 plus vite que les autres. Mais pas seulement, l'homme aussi capable de taper des lettres plus vite que le vocodeur ne pouvait les vocaliser, ce qui parfois, quand il était particulièrement excité, le rendait difficile à comprendre car le vocodeur avait du mal à suivre et mangeait les syllabes. Il rivalisait d'humour absurde avec Mérès, et son rire, muet, se traduisait par des coups donnés sur le bureau, parfois tellement forts que dans les bureaux aux alentours, on entendait plus ses coups que les rires des autres. Loon apprendra par la suite par Alexia que c'était, comme elle disait, une tronche, un cerveau dans une bouteille, qui avait très longtemps beaucoup souffert de son handicap avant d'intégrer l'IAMAS. Typiquement, c'est lui qui avait inventé la centrifugeuse. Et c'est à lui qu'on passait toutes les nouveautés un petit peu bizarres qui circulaient à droite à gauche et qu'il savait décortiquer avant même que les spécialistes de l'IAMAS ne puissent comprendre de quoi ça parlait. Il était une des raisons pour laquelle Carmen était restée. Une sorte de relation père-fille s'était instituée entre les deux. Mais, du point de vue intellectuel, l'émulation était grande et c'était à cause de Seban que l'équipe de Mérès, à ses débuts, s'était fait remarquer autant. La dernière membre de l'équipe, Nathalie Mélonet, avait un rôle un petit peu à part. Elle était une pure mathématicienne. Elle ne travaillait réellement pour l'équipe que, disons, 4 jours par semaine. En réalité, elle était toujours là, mais très régulièrement, d'autres équipes venaient la solliciter, et elle était alors obligée de quitter la famille quelque temps pour aller faire son travail ailleurs. Son rôle pivot au sein des équipes d'élite de l'IAMAS, c'était les calculs statistiques qui permettaient de comprendre quels impacts allaient avoir quels événements pour effectuer une priorisation et savoir sur quoi il fallait d'abord travailler. En réalité, elle n'aurait jamais dû intégrer l'équipe de Mérès. Elle était une sorte de tour de contrôle que tout le monde suivait. C'est elle qui faisait les tableaux. La première chose que l'on faisait quand on rentrait dans la salle le matin, c'était de regarder quels étaient les derniers événements qu'elle avait trouvés importants et qui indiquaient sur quel axe on allait travailler dans la journée. Seulement Yann Mérès avait décidé que c'était mieux qu'elle soit dans sa salle pour pouvoir être le premier à avoir ses remarques et ses intuitions. Or, on ne refusait rien à Yann Mérès. Pas même la construction sur mesure de la centrifugeuse qui avait coûté plusieurs millions et qui faisait du coup maintenant de l'équipe Mérès la seule à en disposer et donc parfois la seule à pouvoir traiter certains problèmes. Loon était ainsi au cœur du réacteur et il n'allait pas tarder à s'en apercevoir.